Ils sont chrétiens et ils côtoient l'échec. Le leur ou celui des autres au quotidien. Médecins ou thérapeutes, ils vont nous apporter durant toute cette semaine leur éclairage sur ce que nous percevons comme des échecs, qu'ils soient le type relationnel lié aux circonstances de la vie ou alors à la manière de se comporter. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Françoise Yeni réalise cette édition.
À vue d'esprit. Michel Cocher.
Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors échec et foi, c'est le thème de cette semaine avec 5 invités, tous dans le domaine de l'accompagnement ou le domaine médical. Et ils viennent nous parler de leur perception de l'échec et ce dans un domaine particulier.
Oui, nous aurons un pédiatre qui viendra évoquer l'échec dû à des circonstances de vie tragiques, difficiles. Nous aurons aussi une psychiatre qui viendra nous parler du burn-out, un échec dans le vécu de son quotidien. Mais aujourd'hui, nous voulons commencer avec un développement général sur le thème échec et foi.
Et pour ce faire, vous êtes allé interviewer quelqu'un que l'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans cette émission, que vous aimez bien, je précise aussi, le psychothérapeute bernois Manfred Engeli.
Oui, avec lui, j'ai voulu réfléchir à la signification du mot échec. Alors, pour Manfred Engeli, il y a en tout cas deux types d'échecs, ceux qui sont évitables et ceux qui sont inévitables. J'ai commencé par demander à ce psychothérapeute bernois comment il réagirait si quelqu'un qui s'est fixé le but de descendre en dessous de 10 secondes sur 100 mètres et qui n'y parvient pas, venez lui demander comment gérer un tel échec.
Je pense que la première chose qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous êtes arrivé à vous fixer ce but. Quels sont les motifs? Quel est le but vrai à atteindre? Parce que le but n'est peut-être pas la vitesse de la course, il y a peut-être un autre but, c'est peut-être d'être plus fort que quelqu'un d'autre, ou que sais-je. Donc, je crois que la première chose que j'aimerais faire avec quelqu'un qui vient avec ce problème, c'est de l'aider à comprendre lui-même ce qui l'a poussé.
Donc, ses motivations profondes.
Tout à fait, oui. Et vraiment profondes. Pas seulement extérieures au niveau sportif, professionnel, si on veut, mais vraiment au niveau du cœur. Quelles sont les valeurs, dans un sens, dans ce cœur qui le pousse à le faire? Et je pense que là, il y aurait peut-être un travail à faire quand on a pris conscience de ces différents motifs, parce que en général, il y en a plusieurs. On peut comme descendre en profondeur, on peut commencer par les choses tout à fait simple et extérieur, et puis on arrive peut-être peu à peu au cœur, au motif profond. Comme on dit, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, quelque chose de ce genre-là. Et puis là, d'aider la personne à voir si elle veut redéfinir un peu ce but, si ce but lui semble juste, si elle arrive à la conclusion qu'il y a eu de faux motifs derrière, elle aura un travail à faire dans le sens d'arriver de nouveau à être réconciliée avec elle-même, parce qu'elle arrivera à la conclusion pour finir « je me suis organisé moi-même cet échec ». Et dans ce sens, il y aura peut-être là un travail à faire face à elle-même, de se dire « ben, j'ai mal agi face à moi-même, ces motifs n'ont pas été valables ». Peut-être de se pardonner, ou peut-être même de demander pardon à Dieu. Et d'autre part, de refixer un prochain but qui serait un but réaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un but réaliste? Un but réaliste est un but qui comprend un vrai défi, dans le sens de « c'est pas donné, on ne le recevra pas », si simplement un vrai défi, mais qui est dans les possibilités de la réalité.
Et ça, c'est pas toujours simple. Hein. On a, dans la vie de tous les jours, parfois des difficultés à être suffisamment conscient de ce que l'on est et véritablement des buts que l'on peut fixer et qui soient quand même accessibles et pas outranciers dans les performances qu'ils demanderaient d'accomplir.
C'est tout à fait vrai. Je crois que nous agissons très souvent à travers des motifs que nous ne connaissons pas vraiment. Mais de vivre un échec peut amener, pas seulement quand on va chercher l'aide extérieure, mais ça peut amener chez une personne une sorte de réflexion dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui permet donc, à travers des échecs aussi, de découvrir un peu mieux qui on est, qu'est-ce qui nous pousse, de fixer des buts qui sont, comme j'ai dit, des défis, mais qui ne dépassent pas les moyens que nous avons. Dans ce sens, je crois que à travers un échec, on peut entrer dans une démarche de croissance personnelle.
Finalement, on maîtrise mieux ce que sont ses propres limites, les potentialités de sa personnalité.
C'est juste. Il y a peut-être le problème qu'il faut faire d'abord une sorte de chemin. D'abord, on vit uniquement émotionnellement, on vit l'échec. Émotionnellement, c'est difficile à vivre. On arrive rapidement peut-être aussi à des conclusions complètement fausses qui nous détourneraient normalement de cette réflexion qui pourrait être la conséquence si on veut vraiment essayer de travailler un échec. Et je crois que c'est peut-être là le premier but, c'est de ne pas rester dans cette réaction émotionnelle qui a peut-être tendance à vouloir jeter tout par-dessus bord ou qui arrive à la conclusion complètement fausse de dire « Mais toi, jamais tu ne réussis, tu ne vaux rien, tu n'arrives à rien du tout, etc. » C'est-à-dire, on a tendance à réagir d'une façon très négative et en le faisant, on passe à côté de la chance que l'échec comprend aussi d'en faire quelque chose vraiment dans le sens d'une démarche personnelle qui amènera une plus grande maturité, croissance dans sa propre personne.
Manfred Engeli, il y a un autre type d'échec, c'est celui qui est totalement indépendant de nos pensées, celui qui est inévitable. Alors, face à ce type d'échec-là, comment parvenir à le gérer de manière positive ?
Là aussi, on pourrait dire, il faut peut-être commencer par une prise de conscience de la réalité de ce que c'est que l'être humain et la vie des hommes. Ça m'a souvent frappé dans mon travail que les gens ont une compréhension, je la qualifierais un peu de naïve, de croire que l'homme a droit au bonheur. Alors tout ce qui est une entrave à ce bonheur est vécu comme un échec. Je crois que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la vie sur cette terre, elle est liée à beaucoup de calamités, à des difficultés, à des choses où nous n'avons même pas le choix. Et je crois que de prendre conscience du fait que la vie n'est pas quelque chose de rose et que l'homme n'a pas droit au bonheur dans un sens, c'est déjà une première base qui permet de vivre quelque chose quand il y a un échec à ce niveau-là, de vivre quelque chose de dire « ça m'est arrivé ». C'est-à-dire, je crois que le but serait que nous puissions nous réconcilier avec ce que la vie a amené sans que nous l'avions choisi. Se réconcilier ne veut pas dire « ça a été formidable », mais veut dire « je suis d'accord que ça fait partie de ma vie ». Et je pense que de se réconcilier avec les faits, avec ce qui est arrivé tout simplement, ça permet de commencer à faire le tri un peu, de savoir ce qui m'est arrivé. Il y a eu des conséquences difficiles à vivre, par exemple un deuil, mais il y a aussi peut-être quelque chose de positif, il y a peut-être comme une prochaine étape de notre vie qui commencera à travers quelque chose de difficile que nous avons vécu.
Mais vous-même, vous pensez que on parvient toujours à se réconcilier avec ce type d'échec inévitable que l'on rencontre dans la vie ?
Je crois que si on est d'accord de lâcher prise sur ces illusions dont j'ai déjà parlé, le fait de se réconcilier, je le considère d'abord aussi comme un acte de volonté. Je peux me décider à me réconcilier avec ce qui est, ce qui m'est arrivé. Ça ne voudra pas dire que j'aurai peut-être pas à fournir un travail intérieur, parce que même quand c'est quelque chose qui m'est arrivé à travers la vie, il y a peut-être quand même des personnes qui ont été liées à ce fait. Il y a peut-être le personnel à l'hôpital qui n'a pas réagi d'une façon idéale ou que sais-je. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont liées quand même à ces événements. Mais là, il y aura à faire le travail intérieur d'arriver à dire « eux pas non plus ». Ils ne sont pas parfaits comme je ne le suis pas non plus. Je suis d'accord de pardonner leur manque de perfection, leur réaction peut-être spontanée, etc. Donc il y a peut-être aussi un travail à fournir pour pouvoir se réconcilier, peut-être même avec soi-même, parce que dans ces choses qui nous arrivent, nous avons peut-être aussi une autre part, peut-être une part très petite, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de notre côté qui a contribué à ce que la situation se développe de cette façon-là. Nous n'avons peut-être pas vécu d'une façon vraiment saine, dans le sens un peu de la vie physique, et nous tombons peut-être dans quelque chose qui peut être les conséquences de notre manière de vivre. Et là, il y aura peut-être aussi à faire un travail au niveau de se réconcilier avec nos propres actes et avec nos décisions, avec nos choix.
Manfred Engeli, est-ce que dans tout cela, on n'est pas systématiquement dépendant du regard que l'on pose sur ce qui nous arrive ?
Je crois que c'est tout à fait ça. Je pense que ce regard sur ce qui m'arrive dans ma vie fait que je le qualifie soit d'échec, soit d'une chose qui est difficile à vivre, mais dont je ne suis pas responsable dans un sens. L'échec pour moi serait vraiment lié à mes buts et à ma responsabilité. Et dans ce sens, la définition de l'échec, comment on catégorise les événements de la vie, je pense que là, il y a déjà une première chose importante. Nous avons le choix de qualifier certaines choses comme échec que moi, personnellement, je ne qualifierais pas comme échec. Et dans ce sens, je crois qu'on peut travailler mieux, plus simplement, les événements difficiles à vivre si on arrive à faire la part entre ce qui est véritablement échec et ce qui est tout simplement conséquence naturelle, normale, du fait que la vie sur cette terre est quelque chose où il y a toujours de nouveau des choses difficiles à vivre.
Est-ce que finalement, l'appellation d'un événement comme étant un échec dépend pas d'un refus, d'un lâcher prise sur l'événement, une sorte de manière d'envisager la vie où soi-même on se positionne comme un peu tout puissant?
Ça va dans cette direction, où, comme j'ai dit tout à l'heure, où on a l'impression que normalement on aurait droit à une vie où il n'y a rien de difficile. C'est-à-dire où on reste dans une sorte d'illusion, où on refuse de vivre dans la réalité de la vie humaine et où on se forge un peu un monde idéal qui ne tiendra jamais debout dans la réalité, mais qui fait que nous avons tendance à toujours être déçus, à nous sentir victimes, à avoir l'impression d'être un peu malmenés par la vie. Je crois que là, il y a vraiment un phénomène où, à travers une vision réaliste de la vie, on peut arriver à avoir un autre regard sur différentes choses que nous pouvons vivre.
Manfred Engeli, quel rôle pourrait jouer Dieu dans ce vécu de l'échec évitable et de l'échec inévitable, comme vous les avez appelés ?
Ça dépend tout d'abord quelle place Dieu a dans une vie. Et pour moi, dans ma vie, c'est vraiment, je pourrais dire, la relation la plus étroite que je vis, c'est cette relation avec lui. Et dans ce sens, une première place que Dieu a dans l'échec, c'est que je sais qu'il aura vécu avec moi, qu'il a partagé avec moi tout ce que j'ai vécu. Je sais qu'il a toujours été avec moi. J'ai mentionné le fait de vivre des nuits de bombardement en Allemagne, là. Et je sais qu'il a été avec moi. C'est-à-dire, il y a pour moi un très grand phénomène de consolation de savoir il y a quelqu'un qui partagera tous mes échecs avec moi. Et pas comme un juge, mais comme quelqu'un qui prend vraiment part à tout ce que je vis, qui connaît dans un sens mes émotions. Et quand je traverse un échec, aussi les échecs dont je portais la responsabilité, je pense par exemple à une matinée avec des couples que j'avais complètement raté, ben, la première chose que je fais, c'est je vais auprès de lui et je partage avec lui ce sentiment d'échec et je lui ai dit, écoute Seigneur, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est ça pour moi la première chose que j'aimerais dire, la place qu'il a dans tout cela, c'est je sais que je peux le partager avec lui.
Donc là, vous entrez dans une sorte de relation de vis-à-vis avec Dieu, vous renouez quelque part à ce que l'on découvrirait dans les psaumes de la Bible. Par exemple, on a l'impression que chaque rédacteur de ces psaumes parle à Dieu comme s'il parlait à un ami, ou en tout cas à quelqu'un qui lui fait face.
C'est exactement ce que je vis, oui. Les psaumes m'ont beaucoup parlé, surtout aussi par rapport à ma thèse de doctorat sur le parler à soi-même, où je les ai étudiés. Et il y a un psaume qui dit, je ne sais plus lequel c'est, qui dit « Épanchez votre cœur devant Dieu ». Et c'est vraiment une, pour moi, comme une première démarche. Et à travers ce dialogue intérieur avec lui, il y a aussi comme un premier regard sur cet échec. Comme le regard de Dieu, je peux revenir à cette situation. Je lui ai dit, Seigneur, ce séminaire, c'était une catastrophe. Et j'avais l'impression que de sa part, il y avait la réponse. Oui, c'était une catastrophe, mais ça ne fait rien. C'est de cette catastrophe que je veux faire quelque chose de positif pour chaque couple. Alors, il y a comme cette possibilité de lui donner mon échec, de recevoir son pardon et de le lui donner dans le sens de dire, Seigneur, s'il te plaît, tu peux en faire quelque chose. Et dans sa bonté, je pense qu'il le fait volontiers. Par amour pour ces personnes concernées, par amour pour moi aussi. Dans ce sens, l'échec perd son aiguillon dans un sens. L'échec perd cette épine qu'on garde tout le temps dans le pied. On peut travailler cet échec avec lui de façon à ce que ça devienne quelque chose de vécu qui nous permet aussi de croître, parce qu'on peut apprendre et dire, pour finir, qu'est-ce que je changerai une prochaine fois? Qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment la prochaine fois? Dans ce sens, ces échecs vécus avec lui m'ont souvent servi aussi ont été transformés dans un sens en quelque chose de positif.
Est-ce que vous procédez de la même manière quand vous faites face à un échec inévitable? Vous avez parlé tout à l'heure du décès de votre fils à l'âge de 30 ans. Est-ce que Dieu a joué un rôle comparable? Il est resté tout au long de cette maladie et tout au long de la période de deuil? Il est resté un vis-à-vis?
Il a été notre vis-à-vis, oui, pour nous tous, pour moi-même, pour ma femme, pour chacun de nos enfants. Nous avons vécu ça vraiment en famille. Nous ne l'avons pas vécu exactement de la même façon. Et ce vécu n'a pas été un vécu toujours très heureux. C'est-à-dire, il y a aussi eu des moments de lutte, des moments où on a lutté avec cette question mais du pourquoi. Nous avons beaucoup prié aussi pour que Dieu intervienne pour le guérir. Donc, ça a été un vécu avec des hauts et des bas. Mais il y a comme une chose qui n'a jamais été ébranlée. Dieu est resté pour nous à travers tout ce vécu où il y a peut-être aussi eu des combats avec Dieu, comme on le voit un peu chez Job et chez notre fils aussi lui-même dans sa relation avec Dieu. Mais Dieu est resté pour nous ce Dieu de grâce et ce Dieu de sagesse à qui nous avons pu faire confiance et nous pouvons faire confiance même encore mieux maintenant. Cette vision de Dieu, de ce Dieu plein de bienveillance et d'amour, n'a pas été changée par ce vécu. C'est aussi un peu un miracle dans un sens, parce que on pourrait se dire, mais à travers tout cela, parce qu'il y a aussi des questions sans réponse, la question du pourquoi, elle n'a jamais une réponse. Nous n'avons pas de réponse au pourquoi, mais nous avons d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes accrochés à lui, nous avons dit, et nous restons accrochés dans cette relation face à toi. Et nous voulons vraiment rester dans cette attitude de confiance face à toi. Et pour finir, ça a été vraiment possible.
Manfred Engeli, quand on vous entend parler de Dieu et de la réalité de l'échec, de cette présence de Dieu à vos côtés tout au long de périodes difficiles de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que finalement il y aurait quelque part une sorte de lien entre Dieu et échec, un lien que souvent on peine à envisager?
Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit spontanément. L'un de ces liens, c'est cette parole qui nous a souvent accompagnés dans les choses difficiles que nous avons vécues, encore d'autres choses difficiles avec des enfants. Cette promesse dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, cette parole qui dit que à ceux qui aiment Dieu, toutes choses doivent concourir et être transformées en quelque chose de bien, de positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons vécu souvent. Pour moi, c'est là la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, qu'il est un Dieu qui ne nous évite pas les difficultés, mais un Dieu qui met toute sa force à permettre que ces choses deviennent pour nous des choses, pour finir, qui peuvent être transformées vraiment en bénédiction, en bienfait. C'est ça le premier lien, et le second lien que l'échec et Dieu, pour moi, c'est que dans ces situations où j'ai vécu des échecs dans mon travail psychothérapeutique, par exemple, où j'avais investi tout mon amour, toute ma force dans une relation pour essayer de permettre qu'il y ait un changement dans une vie ou dans un couple, j'ai vécu ces échecs-là comme quelque chose où je partageais l'échec de Dieu. Parce que ça m'a frappé de dire, Dieu aussi, il peut vivre dans un sens l'échec. Du fait qu'il aime, mais il donne la liberté à son vis-à-vis. Celui qui donne la liberté au vis-à-vis, il s'expose à l'échec. Parce que le vis-à-vis, il peut dire non à mon amour. Il peut le rejeter, le refuser. Et je suis complètement impuissant si je veux lui laisser la liberté. Et dans un sens, j'ai toujours eu l'impression que certains échecs, Dieu les partageait avec moi, c'était comme les échecs que Dieu vit lui aussi et qu'il connaît très bien et où il sait lui-même quelle est la souffrance qui est liée à ces échecs, de vouloir le bien de l'autre et de ne pas réussir dans le sens de... En laissant à l'autre la liberté, il refuse de faire ce qui serait bien pour lui. Il choisit le mal, il choisit ce qui le détruit, au lieu de choisir ce qui permettrait qu'il puisse vivre plus pleinement.
Manfred Engeli, quand je vous entends parler de cela, j'ai comme l'impression d'entendre en sous-main la vie de Jésus.
Je pense que la vie de Jésus est comme l'exemple typique de ce risque de l'amour de Dieu. D'aimer comme Dieu aime, ça peut nous coûter la vie, ça a coûté la vie à son Fils. Et humainement parlant, cette vie est un échec total. Nous avons ce regard sur cette vie de Jésus parce que nous connaissons la résurrection et ce qui s'est passé après la Pentecôte, etc. Mais pour les disciples, ça a dû être l'échec total. À l'âge de 30 ans, crucifié, plus rien qui reste, ce ministère. Et là, nous voyons dans un sens cette force, cette puissance de Dieu qui fait de cet échec humain le moyen pour sauver toute l'humanité, où on se rend compte que ce regard extérieur de l'homme qui dit « c'est un échec » et le regard de Dieu qui voit ce qui peut en devenir, les conséquences possibles, c'est un regard tout à fait différent. Et je pense que beaucoup de choses que nous vivons comme des échecs dans notre vie, avec le regard de Dieu, seront peut-être parmi les choses les plus importantes, les plus fructueuses que nous avons pu vivre dans notre vie.
Donc il y aurait aussi toujours cette espérance à avoir. D'un côté, on découvre l'échec dans la mort de Jésus à la croix, mais on peut toujours se dire que la puissance de Dieu demeure là et qu'il y a un potentiel de résurrection, de renouveau, de vie derrière l'échec.
C'est cela, ce qui me frappe par rapport à cette possibilité que Dieu a de transformer l'échec en un plus, en quelque chose de vraiment positif. Ça dépend, si on prend au sérieux cette parole que j'ai déjà mentionnée dans Romains 8, ça dépend de notre attitude face à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai compris que quand on voit aussi que quelqu'un d'autre autour de nous, nos enfants ou des proches vivent un échec, ça a déclenché chez moi souvent cette prière: Seigneur, permets que l'amour de cette personne pour toi augmente. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu semble ouvrir à Dieu la porte pour pouvoir transformer des échecs en quelque chose de bien, en une bénédiction pour nous. Et là, je me suis souvent dit, nous devrions beaucoup plus prier pour les personnes que nous aimons, que leur amour pour Dieu puisse grandir pour que cette promesse puisse se réaliser d'une façon beaucoup plus totale.
Le psychothérapeute Manfred Engeli était avec nous pour évoquer l'échec et notamment cette distinction entre échec évitable et échec inévitable. Alors Serge, nous poursuivons dans cette veine demain avec votre invité.
Mais effectivement, nous poursuivons demain ce parcours autour d'échec et foi avec Jacques Poujol. Il est pasteur et psychothérapeute et il évoquera à notre micro ces personnalités de la Bible qui connaissent l'échec et qui trouvent dans le face-à-face avec Dieu l'occasion de mûrir leur déboire, de mûrir leur échec.
Demain donc, rendez-vous à 16h30 pour une nouvelle édition de cette série intitulée « Regard croyant sur les échecs de la vie ». Alors Serge, un petit rappel avant de se quitter.
Oui, si vous souhaitez poursuivre la réflexion en lien avec Manfred Engeli, rappelons qu'il a publié un petit livre intitulé Makarios ou En route vers le bonheur, et ce petit livre est sorti aux éditions Je sème à Genève.
Merci Serge. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette série et sur les émissions qui vont venir aussi, ne manquez pas de visiter notre site religion.rsr.ch. Merci de nous avoir suivis. Françoise Yenny réalisait cette édition. Serge Carrel et Michel Cocher étaient au micro. Ils vous souhaitent à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi à l'écoute de la Radio Suisse Romande Espace 2.